Aujourd'hui, 1 milliard de personnes n'a toujours pas accès à l'eau potable. Ressource naturelle indispensable à la vie, l'eau est source de conflits et de toutes les convoitises. Ricardo Petrella est secrétaire du Comité international pour un contrat mondial de l'eau. Il était à Aubagne le 10 octobre 2011 lors du forum mondial local Mondissimo. À quelques mois du Forum mondial de l'eau qui se tiendra à Marseille en mars 2012, Ricardo Petrella a rappelé l'importance des luttes citoyennes dans cette réappropriation de l'eau comme un bien commun, dans un domaine marqué par l'empreinte des grandes multinationales.
Au nom Ricardo Petrella, qui habite en Belgique depuis pratiquement 30 ans et plus, où j'étais prof à l'Université catholique de Louvain, où j'ai enseigné la mondialisation.
Alors aujourd'hui, vous êtes aussi secrétaire général du Comité international pour un contrat mondial de l'eau.
Oui, en effet, c'est quelque chose qu'on a créé avec Mario Soares, l'ancien président de la République du Portugal, ensemble en 1997, lorsqu'on a établi avec d'autres personnes du monde entier les manifestes de l'eau pour un contrat mondial de l'eau. Et à l'époque, déjà, on affirmait la nécessité d'avoir une politique mondiale de l'eau et pas, au contraire, de laisser la politique mondiale de l'eau être réalisée, définie, imposée par les grands groupes multinationaux français, notamment privés de l'eau, qui, hélas, au cours de ces 15 dernières années, ont augmenté même leur pouvoir de contrôle et d'influence, même en milieu des grandes organisations des Nations Unies. Mais heureusement, de l'autre côté, on peut constater qu'en 15 ans, on a fait des énormes progrès, notamment pour ce qui concerne le pouvoir d'orientation culturelle de ce qu'est l'eau. Au cours de ces 15 dernières années, les citoyens ont réussi finalement à démolir le monopole que les grandes entreprises avaient acquis sur la conception de l'eau.
Alors sur la conception, les gens ont de plus en plus conscience que c'est un bien commun, mais concernant la marchandisation de l'eau, est-ce qu'il y a eu des efforts qui ont fait, est-ce que vous avez gagné des batailles dans cette reconnaissance de l'eau comme un bien commun?
Ah oui, ce n'est pas parce que je suis italien que je veux rappeler immédiatement et sans hésiter la grande victoire qui a été réalisée en Europe, notamment ces 3 dernières années, c'est-à-dire la victoire des référendums d'abrogation des dispositions législatives que l'actuel gouvernement de Berlusconi a introduites et qui effectivement imposaient l'obligatorieté de confier la gestion de l'eau à des sujets privés. C'est-à-dire, la loi en Italie ne prévoyait pas la possibilité seulement, mais elle prévoyait l'obligation qu'il n'y avait que les sujets privés qui pouvaient gérer les services hydriques. Et deuxièmement, on a abrogé le principe de l'obligatoriété de 7% de profit admis pour les gérants privés de l'eau. Alors là, effectivement, c'était le maximum de la marchandisation et de la financiarisation au service des intérêts du capital privé. Et le fait que 27 millions d'Italiens qui ont fait une campagne énorme, spontanée par des centaines de comités, de base, c'est vraiment une cassure dans cette marche qui paraissait triomphale de la part du secteur privé de privatiser non seulement l'eau, de marchandiser non seulement l'eau, mais à travers l'eau, de privatiser la vie et de marchandiser la vie.
Et dans quelle région du monde la lutte pour l'accès à l'eau est source de conflit aujourd'hui?
Bon, alors effectivement, en ce moment, en Amérique latine, en Asie et en Afrique, mais également en Europe, mais c'est surtout en Amérique latine encore qui reste une région source de conflit autour de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau qui est en train d'être traitée par les pouvoirs dominants, les pouvoirs forts, comme une ressource naturelle stratégiquement importante pour l'économie, est objet de convoitises fortes. Et en Amérique latine, elle est ultra riche d'eau. l'Amazonie, l'aquifère Guarani, entre le Brésil et l'Argentine, etc., sont un des aquifères les plus riches d'eau au monde. Et les classes dirigeantes, souvent, de ces pays qui, dans les passés, ont été des dictatures et qui ont été soumises à une influence formidable des États-Unis et avant aussi de l'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne, etc., sont attirés par le fait d'utiliser leur eau. Alors ils considèrent la ressource hydrique de leur pays comme leur eau. Et donc déjà un premier pacte, pas de marchandisation et de privatisation, parce qu'aucun État n'est propriétaire de l'eau. Un État est responsable du bon usage de l'eau. Certes, et alors c'est en Amérique latine où il y a en ce moment, même sous Lula, mais sous la nouvelle présidente du Brésil, et sous Lula, il y avait des fortes oppositions et un des récents conflits qui est étonnant, parce que met en opposition des anciens alliés, c'est en Bolivie, où le président Evo Morales, faciliter le développement économique de la région, a autorisé l'ouverture d'une autoroute qui va au cœur de la forêt amazonienne, pensant qu'en facilitant l'exploitation, même modeste, de la forêt, faciliterait la croissance économique de son pays et donc le bien-être de son peuple. Et il s'est retrouvé, Evo Morales, qui est le premier président d'origine indigène, il s'est retrouvé maintenant les indigènes, les populations autochtones contre lui qui font la marche et ont réussi à le bloquer pour l'instant. Donc on n'a pas gagné encore, même si en Italie on a gagné, la bataille pour l'eau reste fondamentale et reste dure.
Et qu'est-ce que vous attendez du 6e Forum mondial de l'eau qui se tiendra du 12 au 17 mars 2012 à Marseille ?
La première chose, qu'on arrive à le décrédibiliser totalement. Parce que c'est le 6e Forum mondial de l'eau du Conseil mondial de l'eau, qui est une organisation privée, dominée par les grands groupes multinationaux privés, notamment français, est une imposture. Dans le sens que si j'étais une organisation comme les autres, privée, de défense des intérêts des entreprises, pourquoi pas, nous sommes une société démocratique, toute entreprise, tout le monde peut défendre ses propres intérêts. Mais prétendre que les conceptions du monde industriel et privé et financier doivent être la norme de la politique de l'eau dans le monde, ça c'est un abus et ça c'est une imposture. Et donc j'espère que finalement, les citoyens arriveront à dire basta avec ce Conseil mondial de l'eau et réaffirmer que c'est l'ONU qui devrait être responsable de la politique de l'eau dans le monde. Au contraire, l'ONU ces derniers temps, les agences de l'ONU sont devenues membres du Conseil mondial de l'eau. Et au lieu d'être le Conseil mondial de l'eau, une organisation qui est dans le cadre des Nations Unies, c'est les Nations Unies qui sont devenues dans le cadre du Forum mondial de l'eau. Et ça, je crois que c'est une inversion de la justice, de la réalité du fonctionnement d'une société démocratique auquel il est temps de mettre fin de manière radicale. Le Forum alternatif mondial de l'eau sera une occasion peut-être plus importante qu'ailleurs des forums alternatifs ont déjà eu lieu, parce qu'on se trouvera à Marseille au cœur, je dirais, de la célébration de la messe mondiale de la théologie universelle capitaliste de l'eau. Et cette théologie universelle capitaliste trouvera à Marseille la célébration de la part des pontifes, des évêques les plus puissants du monde. Alors, devenir mécréant, réussir à montrer qu'on doit défaire et mettre hors de la loi, finalement, cette théologie universelle capitaliste de l'eau, me paraît une bonne occasion et je crois qu'on en parviendra. Parce que, comme je vous disais au début, on a petit à petit réussi à enlever le monopole culturel de la définition de ce qu'est l'eau au monde de la finance et au monde du business. Et Marseille pourrait, l'alternative, le forum pourrait être une occasion d'affirmation de cette reconquête culturelle de la part des gens de ce qu'est l'eau, de ce qu'est la vie, de ce qu'est une société.
Le forum alternatif de l'eau se tiendra à Marseille du 10 au 18 mars 2012. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le www.fame2012.org. Une entrevue à retrouver sur radiogrenouille.com.